Il y a un texte émouvant dans le Figaro de ce matin, un texte qui vous fera toucher du doigt la misère du monde. Et ce texte, c'est l'interview du patron de Nestlé France, un certain Richard Girardot. Le cœur de Monsieur Nestlé saigne. Il est victime de pression, pratiquement de harcèlement moral. Figurez-vous que les grandes surfaces sont méchantes. Elles sont méchantes parce qu'elles font pression sur les prix et c'est terrible parce que Nestlé est quasiment sur la paille. Songez que l'an dernier, Nestlé n'a fait que 14 milliards de francs suisses de bénéfices, un vrai problème, après une année 2013 douloureuse où Nestlé ne faisait que 10 milliards de francs suisses de profit. Mais vous le savez, les grandes douleurs sont muettes et le patron de Nestlé se garde bien de s'épancher sur ses soucis d'argent. Il préfère se concentrer sur sa cible du jour, la concentration des centrales d'achat des hypermarchés français. Effectivement, il s'est produit une révolution silencieuse en fin d'année dernière. Auchan et Système U en septembre, puis Intermarché et Casino en octobre ont annoncé la formation d'alliances entre leurs centrales d'achat, ces entités chargées d'effectuer les achats des grandes surfaces, autrement dit de rassembler les achats, de les concentrer pour obtenir des rabais auprès des fournisseurs. Et c'est une véritable histoire française. D'abord, on parle de concurrence dans les hypermarchés comme dans les télécoms, mais cette histoire de concurrence se termine en histoire de concentration. Dans les télécoms, comme dans la grande distribution, la guerre des prix s'est bien vite soldée par un armistice. Voilà une pierre de plus dans le jardin de la macroéconomie, laquelle nous vante quotidiennement les mérites de la concurrence. Tout simplement parce qu'en matière de yaourt comme de téléphone, le monopole est bien souvent la conséquence de la concurrence.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
La concurrence de la pierre, maintenant la concurrence entre le fait de devenir propriétaire pour ceux qui peuvent se le permettre et ceux qui ont décidé de demeurer locataire. Pour en parler, je suis tout d'abord en compagnie d'une sociologue, Anne Lambert. Bonjour. Anne Lambert, vous venez de publier « Tous propriétaires » aux éditions du Seuil où vous essayez de mesurer les conséquences pour un certain nombre de personnes issues de la classe moyenne, avec parfois aussi des revenus plus modestes encore, ces conséquences d'être devenus propriétaires sur leur budget, sur leur manière de vivre, et vous montrer que tout cela n'est pas aussi rose que ces gens-là l'espéraient. En face de vous se trouve Tonino Serafini. Bonjour.
Bonjour,
vous êtes journaliste à Libération, spécialiste de l'immobilier. Et puis enfin, Jean-François Buet, vous êtes président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Jean-François Buet, je vais vous poser la question traditionnelle, est-ce le moment d'acheter ?
Alors écoutez, effectivement, quand on pose la question comme ça à un agent immobilier, on s'attend à ce qu'il vous dise, bah oui, c'est le moment d'acheter.
Non, en fait, ou de vendre, puisque...
De toute façon, pour acheter, il faut qu'il y ait un vendeur, effectivement. Ça, c'est une... Dans une transaction, on a un vendeur et un acquéreur. La question, elle est très complexe. Il ne faut pas acheter pour acheter. Il ne faut surtout pas acheter pour acheter. Moi, je ne cesse de le dire. Il faut acheter quand on est dans le moment de sa vie où on est plutôt en stabilité, où on est plutôt, on voit l'avenir, où on a la confiance de son banquier, où on sait précisément ce qu'on veut, où on a envie de s'installer à un endroit. Mais il y a aussi les périodes de la vie où il y a la mobilité, il y a les périodes de la vie où on ne sait pas ce qui va se passer dans un an ou dans deux ans. Et puis, il y a aussi des choix. Il y a clairement des gens qui préfèrent ne pas acheter et puis avoir un loyer qui leur coûte moins cher qu'un remboursement auprès de la banque pour mieux vivre. Et c'est un choix tout à fait respectable. Et puis, de toute façon, on va pas déflorer le débat, mais il y a des propriétaires, des locataires. Il faut aussi de la mobilité.
On explique en ce moment qu'il y a une fenêtre parce que les prix seraient plutôt bas, ils sont en diminution dans toute la France. On nous explique aussi que les taux sont bas. Dès lors, on se dit que c'est le moment rêvé pour acheter.
Alors, les taux sont vraiment extrêmement bas puisque aujourd'hui, on emprunte à moins de 2%. Donc, il est évident qu'on ne rembourse pratiquement que du capital. Et à partir du moment où on ne rembourse que du capital, on se dit que finalement, on n'a pas grand risque. Les prix sont plus bas, mais il faut regarder sur le territoire. Il y a des grandes, grandes disparités de territoire en fonction des régions, des zones géographiques. Si on est sur les grandes métropoles, là où le marché se tient, si on est en périurbain, si on est en rural, et puis en fonction du type de logement aussi. Aujourd'hui, nos clients consommateurs, les Français, qui ont quand même peur de l'avenir, avec le chômage, l'économie qui est incertaine, se posent beaucoup de questions. Et s'ils ne se décident pas tous pour acheter, c'est parce qu'ils ont du mal à se projeter et qu'il y a des endroits, comme dans les grandes villes, où les prix restent très élevés et où le bien qui correspond aux besoins du français moyen, c'est-à-dire le 3, 4 pièces, 2 chambres, 3 chambres, est le bien qui se vend le plus. Et celui-là, dans les grandes villes, il ne baisse pas vraiment.
Anne Lambert, vous êtes sociologue, vous êtes allée voir comment vivaient des gens qui étaient devenus propriétaires, qui avaient bien souvent quitté leur HLM pour devenir propriétaires de pavillons. Et ces gens-là découvrent en quelque sorte l'envers du rêve pavillonnaire, avec beaucoup de désillusions à la clé. Pourquoi ces désillusions ?
Alors, tout d'abord, il faut rappeler que c'est des ménages qui ne souhaitaient pas forcément être propriétaires à tout prix. Quand on les suit dans le long terme, pendant l'enquête, on voit que d'abord, ils avaient cherché à être propriétaires ou locataires à proximité de leur lieu de résidence actuel. Et c'est devant les difficultés du marché immobilier dans les grandes agglomérations qu'ils sont partis en périurbain s'installer et acheter des petites maisons de lotissement, d'entrée de gamme, etc. Alors, pourquoi une désillusion progressivement une fois qu'ils s'installent dans ces zones qu'ils ne connaissent pas? C'est d'une part parce que la facture des maisons n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Les maisons sont petites par rapport à leur situation familiale. Et puis surtout, ils se rendent compte en fait qu'ils sont très éloignés de l'emploi, des zones d'emploi. Donc ça devient coûteux à l'usage pour les couples de maintenir une biactivité. Et puis surtout pour leurs enfants en fait. Ils s'installent là en se disant on sera mieux pour nos enfants, on leur garantit un meilleur avenir, un meilleur cadre de vie. Et en fait, ils se rendent compte que dans les zones périurbaines ou rurales, il y a aussi des écoles ZEP, il y a aussi des lycées qui ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Et du coup, les espoirs d'ascension sociale sont progressivement déçus et remis en cause par ces ménages.
Et ils se rendent compte finalement qu'il aurait mieux valu demeurer locataire en HLM. Alors bien souvent, ils ont décidé de quitter ces HLM, comme vous l'expliquez, parce que les charges augmentaient, parce qu'ils se retrouvaient avec 100 euros, 200 euros d'augmentation par mois de ces charges, ce qui pesait sur leur budget. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de devenir propriétaires. Et devenir propriétaire n'a pas été la solution. C'est le thème de notre débat du jour, dont on va immédiatement explorer les recoins juste après Pigalle, dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. On peut acheter rue des Martyrs. C'est un disque choisi par Stéphanie Texier avec Thierry Dupin.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, il y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a les ivrognes qui s'épanchent au bar, glisse lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure ensemble. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, certains soirs tout à coup dans un coin on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs. Y a des voyageurs tristes par-dessus les valises. Y a des bookmakers qui ramassent les mises la nuit. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, on peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire. Une vieille clocharde, la gueule défoncée, entre avec sa poussette et se met à gueuler, à boire. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs.
Dans la salle du bar. Qu'est-ce que ça fait d'être propriétaire? Ben, ce qui me fait bizarre, c'est que j'ai l'impression que cette porte, elle est à moi. Que ce parquet, il est à moi. Cette porte horrible, là, ben, elle est à moi. Ça, c'est à moi. J'ai acheté ces murs, ces radiateurs, ce parquet. Cette grosse porte blindée, elle est à moi. Cette sonnette, là. Elle est à moi. C'est à moi. Ça aussi, les chiottes.
Allez, tout ça, c'est à moi. Faut-il devenir propriétaire? Nous sommes en compagnie de Jean-François Buet, qui est président de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, d'Anne Lambert, qui est sociologue et qui vient de publier « Tous propriétaires !» aux éditions du Seuil, où elle explique que devenir propriétaire, ça n'est pas nécessairement un rêve. Et puis enfin, notre confrère journaliste à Libération, Tonino Serafini. Tonino Serafini, il y a énormément de gens respectables, comme Jean-François Buet, qui est président de la FNAIM, qui ont intérêt à nous faire acheter de la pierre parce que c'est leur métier. Il y a aussi des banques. Bref, tous ces gens nous racontent à longueur de temps que c'est le moment qu'il faut y aller. Et selon vous, faut-il y aller?
Mais le logement, c'est un secteur d'activité économique, hein, extrêmement lucratif. Et donc, derrière, il y a des emplois et il y a aussi des intérêts économiques divers et variés. Et c'est vrai que l'accession à la propriété, c'est un rêve. Et c'est un rêve qui parfois est instrumentalisé politiquement. Ça devient un argument électoraliste. Vous vous souvenez que Nicolas Sarkozy, en 2007, avait fait sa campagne électorale sur le thème « Je veux faire de la France un pays de propriétaires ».
Il faut dire qu'il y a 56% de propriétaires en
58.
France. C'est plutôt moins que dans les autres pays.
Oui, mais c'est... En fait, tout dépend avec quoi on compare. Hein, là, les références, les comparaisons. Hein, lorsque les milieux de l'immobilier nous servent des sondages, hein, on voit qu'en Roumanie, il y a 96% de propriétaires. En Albanie, il y en a 90%. Franchement, ce ne sont pas forcément des modèles économiques et sociaux qui sont des références. Hein. En revanche, si l'on compare ce qui se passe
en Irlande ou à l'Écosse, où là, on a des pourcentages de propriétaires plus élevés.
Oui, mais grosso modo, on est dans une moyenne européenne, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et ce rêve donc de la propriété qu'on peut expliquer hein, a été pas mal instrumentalisé. Hein. Et pourquoi il est instrumentalisé? Parce que effectivement, lorsqu'il y a une campagne électorale, ceux qui les conduisent ont besoin d'idées simples, d'idées qui percutent. Et lorsqu'on se réfère à des sondages, hein, on voit que très certainement 80% des Français ont envie de devenir propriétaire. Mais un sondage comme ça ne vaut pas grand-chose, parce que si vous demandez aux gens s'ils ont envie d'être augmentés, vous aurez sans doute les mêmes réponses. Quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est expliquer pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'on est dans une période où les gens se sentent dans une certaine insécurité. Ils sont pas en sécurité par rapport à leur emploi. Ils sont pas en sécurité par rapport à leur logement. S'ils perdent leur emploi, ils risquent de perdre leur logement. Ils sont pas forcément en sécurité par rapport à leur système de retraite. Et donc, l'idée de devenir propriétaire est une sorte d'auto-sécurisation. Et c'est pour ça qu'on a cette aspiration grandissante qu'on lit dans les sondages.
Nous avons Gérard qui nous appelle de l'Auvergne. Gérard, bonjour. Comment ça va, Gérard?
Oui. Bonjour France Inter et merci de prendre mon appel. Je vais essayer d'être rapide puisque c'est les consignes qui m'ont été données.
On vous a disputé au standard, ils sont comme ça.
Beaucoup d'auditeurs qui doivent attendre aussi. Alors écoutez, moi j'ai 61 ans. Effectivement, j'habite en Auvergne depuis quelques années. J'ai acheté avec l'aide de mes parents une maison. Qui avait déjà un certain nombre d'années, puisqu'elle est de 78. Mais avec le recul, je m'aperçois que si c'était à refaire, je ne serais pas propriétaire. Pourquoi? Parce que c'est une maison donc qui a une trentaine d'années, qui à terme aura besoin d'autres travaux, notamment j'ai un ravalement à faire, et là j'ai été, l'an dernier, j'étais contraint de faire des travaux d'isolation, on a trouvé des capricornes dans mes combles, et la hauteur de laine de verre dans les combles ne correspondait plus aux normes. Mmh. J'avais changé déjà la porte d'entrée, la porte du garage qui était un peu vétuste, et puis maintenant, comme je suis avec une famille recomposée, puisque je me suis remarié, mes enfants ayant chacun une maison, je me demande ce que je vais en faire plus tard, ou alors je la revends pour vivre en appartement, mais pas devenir propriétaire, parce qu'il y a beaucoup trop de contraintes, les impôts locaux, les impôts fonciers, pardon, et puis surtout
les charges et l'obligation, évidemment, de remédier à tous les défauts et à tous les problèmes qu'on peut rencontrer, puisque quand votre maison vous appartient, le propriétaire c'est vous, et effectivement lorsqu'on fait un achat, Jean-François Buet, il faut tenir compte de cela, tenir compte du fait, notamment lorsqu'on est en pavillon, en maison individuelle, qu'il va falloir assumer tous les frais relatifs à l'entretien du bien, comme l'a dit Gérard.
C'est vrai que quand on passe le pas de l'acquisition, il faut bien mesurer qu'il y a un certain nombre de travaux qui vont incomber à celui qui devient propriétaire, qui était à la charge du bailleur. Et puis, il y a aussi, effectivement, la taxe foncière. Et au-delà de ça, ce qu'on voit émerger depuis quelques années maintenant, c'est la notion de coût de fonctionnement du logement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'investissement, il y a le coût de fonctionnement, ce que les Allemands appellent le deuxième loyer. C'est-à-dire qu'en fait, avec le coût de l'énergie, avec les charges afférentes, avec les travaux, avec la rénovation énergétique qu'il va falloir faire dans beaucoup de biens, on s'aperçoit que le logement lui-même a un coût de fonctionnement qui est important, qui est lié à son usage. D'où la nécessité de dissocier la partie achat capitalistique, investissement, de l'achat, fonctionnement, coût de fonctionnement et on va dire l'usufruit.
Comment le chiffrer ? On estime généralement qu'il faut prévoir environ 5% du prix d'achat de la maison pour remédier chaque année aux entretiens nécessaires. Alors, c'est un calcul extrêmement compliqué et ce chiffre est très théorique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, il est extrêmement théorique parce que ça dépend ce qu'on met dedans. Et puis, on voit bien qu'il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, quand la chaudière a été changée ou récemment, c'est là 2 ans ou 3 ans, on peut espérer qu'elle ait une durée de vie quand même au moins de 15 ans. Donc ça dépend vraiment, il faut regarder, il faut analyser le bien techniquement. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois là, Gérard parlait de l'isolation de ses combles, il faut effectivement regarder. Alors ne pas hésiter quand on achète un bien à faire appel à un technicien, parce que l'agent immobilier, le notaire ne sont pas des techniciens. Donc regardez comment est-ce que ce bien va vivre dans le temps, comment est-ce qu'il va fonctionner. 5%, ça ne signifie pas grand-chose. Finalement, il y a des biens qui demandent beaucoup plus que 5%.
Lambert, les individus que vous avez interrogés, ceux qui ont acheté des pavillons, à qui on a, on va dire, un peu tendu le miroir aux alouettes, ou en tout cas qui se sont retrouvés propriétaires à l'insu de leur plein gré, en quelque sorte, ils se rendent compte, effectivement, que lorsqu'ils sont propriétaires, tout ça, c'est à eux. Et les problèmes, c'est à eux aussi.
Oui, ils s'en rendent compte malheureusement assez vite. Et en fait, effectivement, ce qu'on voit, c'est en France, un paradoxe, on a très peu de surendettement pour motifs immobiliers. Hein. Les chiffres de la Banque de France sont assez clairs. Par contre, ce qu'on voit quand on étudie les comptes des ménages avec eux, quand on suit leurs dépenses en logement, en fait, ce sont des ménages qui sont vraiment au taquet de l'endettement et qui dépassent largement la norme des 33% que posent les banques quand on souscrit un crédit. Il ne faut pas que les charges de remboursement dépassent 33% des revenus.
Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, pour les gens que vous avez interrogés, on a affaire à des revenus modestes et ces 33% pèsent de plus en plus lourd, parce que lorsqu'on étudie le budget des ménages, il y a des budgets qui, que l'on soit riche ou pauvre, sont à peu près identiques. Par exemple, la nourriture, on ne fait que 3 repas par jour. En revanche, ce budget pèse très lourd sur le budget des ménages les plus modestes et c'est la raison pour laquelle leur surendettement les oblige à couper dans des dépenses qui sont quasiment des dépenses vitales.
Oui, ils coupent assez rapidement sur tout ce qui est loisirs, mais aussi la mobilité, donc la circulation automobile par exemple. En périurbain, ils se déplacent moins. Les femmes arrêtent même de travailler, hein, quittent leur emploi salarié parfois parce que ça suppose de faire 20-30 km par jour, péage, essence, voiture, etc. Et donc, très vite, c'est quand même un enfermement domestique qui est difficile à porter pour ces ménages, en particulier pour les femmes dans ces familles.
Nous avons Freddy au standard. Bonjour Freddy.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Champagne-Ardenne. On ne parlera pas de méthode champenoise, mais peut-être de votre achat immobilier, Freddy.
Oui. Donc, moi, on a acheté avec ma petite amie l'année dernière une maison très ancienne parce qu'elle date de 1900. On regrette pas du tout d'avoir franchi le pas. On a des revenus vraiment modestes, hein, mais on a vraiment étudié le projet avant. Bon, ma copine est mandataire judiciaire, donc elle gère le budget de 50 personnes quotidiennement, donc elle sait gérer un budget. Et on a vraiment calculé avant si on pouvait ou pas, parce qu'on avait vraiment envie d'être propriétaire. C'est le fait de pas payer un loyer à un propriétaire, de payer vraiment pour un bien qui nous appartiendra, et puis ne plus avoir de loyer à payer une fois qu'on sera aussi en retraite aussi, parce que les retraites seront pas forcément grosses. Et puis aussi l'envie de partir de la ville. On habitait en ville et on avait envie de partir à la campagne. Enfin, moi, là, je vis une maison de 100 mètres carrés avec un terrain qui fait 1600 mètres carrés, qui est arboré, qu'il y a la rivière qui passe au fond du jardin. Enfin, c'est vraiment au top, que je regrette pas du tout. On a eu un souci quand on est arrivé dans la maison. On a découvert, on a fait une mauvaise découverte. C'est une mérule. C'est un champignon qui attaque les pois.
Une mérule. Je ne connaissais pas. Oui, Tonino a l'air de savoir ce qu'est une mérule, mais...
Oui, c'est un champignon qui attaque le bois, et s'il s'attaque à la toiture, je vous laisse imaginer la catastrophe.
Bon, alors, il faut traiter le bois.
Oui, ça peut attaquer jusqu'à la toiture de la maison, sans qu'on s'en rende compte, en fait. Sauf que, bon, nous, on a eu la chance qu'il était assez limité, en fait,
C'était une petite mérule.
Oui, c'était une petite mérule qui nous coûte 6 000 euros quand même.
Ah, c'est une grosse merveille.
c'était un imprévu, donc qui joue un peu sur le budget. Les budgets sont ric-rac, mais ça serait à refaire, j'hésiterais pas.
Vous êtes donc un propriétaire content, Freddy. Merci merci pour votre témoignage. Et par ailleurs, Freddy a dit quelque chose d'important qui est en quelque sorte une pierre dans votre jardin, Tonino Serafini, puisque vous disiez « bon, il faut faire attention avant d'acheter ». Alors c'est vrai, évidemment, il faut faire attention, mais il est vrai que la retraite, la préparation de la retraite et la constitution d'un patrimoine pour la plupart des ménages passent justement par le fait de devenir propriétaire.
Ah oui, l'accession à la propriété, c'est un moyen de se constituer un capital, on va dire. Par ailleurs, je trouve que Freddy a dit quelque chose de très intéressant, c'est lorsqu'il a évoqué le loyer. Outre le fait que les gens se sentent en insécurité, je pense que l'autre élément qui pousse les gens à accéder à la propriété, c'est le niveau absolument incroyable des loyers. Je veux dire, à Paris, il est très courant que des gens payent 1500 euros par mois pour se loger. Pour un loyer, par an, ça fait 18 000 euros. Au bout de 10 ans, ça fait quand même 180 000 euros. Et donc, les gens se disent, mais c'est incroyable, tout cet argent qui s'en va dans des loyers. Voilà. Alors, le problème, c'est que, voilà, il y a ceux qui peuvent, et donc qui vont accéder à la propriété d'une manière rationnelle, c'est-à-dire qu'ils vont acheter un bien qui est à peu près conforme à leurs besoins, aux besoins de leur famille, qui vont l'acheter dans un lieu où il pourra se revendre assez facilement plus tard si besoin, qui est à proximité des transports du travail. Et il y a ceux qui vont accéder à la propriété un peu de manière un peu à marche forcée, qui du coup vont aller en zone périurbaine. Et là, ça va être une catastrophe économique, en termes d'éloignement, en termes d'isolement.
Oui, parce qu'il y a des coûts cachés, comme par exemple l'éloignement, la voiture du coup.
Et certains qui restent en banlieue plus proche, qui vont parfois aller acheter dans des copropriétés dégradées, et là, ils vont se fourvoyer dans des niveaux de charges insupportables. Voilà. Et c'est pour ça que, au lieu de parler d'accession à la propriété, il faudrait plutôt parler de politique du logement. C'est-à-dire se dire, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que chaque ménage en France puisse se loger à peu près correctement au vu des besoins économiques des territoires et au vu des besoins des ménages ?
Ça vous fait réagir, Jean-François Buet.
Oui, parce que moi, je considère que depuis 40 ans, on n'a justement pas de politique du logement. Je crois qu'on a eu des micro-politiques qui sont succédées avec des mesures fiscales. D'ailleurs, chaque ministre a laissé son nom à des mesures fiscales, que ce soit Meignery, Borloo, De Robien, Duflot, Pinel, plus récemment. Et donc, on voit bien que ce sont des dispositifs fiscaux qui sont limités dans le temps, mais qui n'ont pas de cohérence entre eux. Et résultat des courses, on ne colle pas à l'aménagement du territoire. Et comme le disait Tonino tout à l'heure, il n'y a pas de réalité vraiment par rapport aux besoins. C'est ce qui explique d'ailleurs que dans les grandes métropoles, il y a un taux de propriétaires qui est bien inférieur à la moyenne et que le taux de propriétaires, il est supérieur à la moyenne plus on va en zone suburbaine ou au pays ou en milieu rural.
Et oui, puisque bien souvent, pour habiter en maison individuelle, il faut devenir propriétaire et c'est la raison pour laquelle on a une grande disparité entre les villes et les campagnes à cet égard. Faut-il acheter ? C'est la question qu'on continue à se poser tout de suite après David Bowie et Mick Jagger, Dancing in the Street, peut-être quand on a acheté ou quand on a vendu d'ailleurs.
Ok, Tokyo, South America.
Service public sur France Inter, faut-il devenir propriétaire ? Je pose la question immédiatement à Marie-Christine qui est au standard. Bonjour Marie-Christine.
Oui, bonjour. Voilà, je suis propriétaire d'un appartement depuis 99. J'appartiens à ce qu'on appelle la classe moyenne. Et depuis quelque temps, je trouve que les syndics ont terriblement augmenté leur pourcentage, enfin ont mis des pourcentages sur les travaux, sur le placement de l'argent qu'on pouvait placer en tant que propriétaire pour des avances de travaux, par exemple, sur les vacations, si bien que le projet de propriétaire qui était viable quand il a été étudié avec la banque est devenu quelque chose d'assez lourd.
Et oui, et cela fait partie effectivement, sinon des coûts cachés, du moins en tout cas des coûts que l'on découvre lorsqu'on devient propriétaire. Merci pour cette remarque, Marie-Christine. Jean-François Buet, vous qui dirigez la FNAIM, quel est le pourcentage de ces revenus qu'il faut allouer à un projet d'acquisition si on veut demeurer raisonnable et continuer à vivre par ailleurs ?
Alors, les charges de copropriété sont un vrai sujet sur le fonctionnement du bien et sur le coût du bien et le coût de fonctionnement qu'on évoquait tout à l'heure. Dans les charges de copropriété, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a le chauffage, l'ascenseur, la sortie des poubelles, l'électricité, les travaux, il n'y a pas que le syndic. On assimile tout le temps les charges au syndic. Les honoraires du syndic, dans les charges de copropriété, c'est en moyenne 7%. Donc, même si on fait des économies de 10 ou de 20% sur ces 7%, on voit que l'incidence sur le montant des charges globales, elle est très minime. En fait, les charges, il faut essayer de les contenir. Et pour contenir les charges, il faut regarder tous les postes. Il faut regarder le poste de l'assureur, de l'assurance, il faut regarder les postes des travaux, etc. etc. La loi Allure, dont on a dit beaucoup de mal, a aussi des côtés positifs. En particulier, la loi Allure oblige les vendeurs à donner les éléments chiffrés sur les charges de copropriété au moment de chaque vente. C'est-à-dire qu'on a le budget prévisionnel, les charges en cours, et on doit informer systématiquement maintenant l'acquéreur sur le coût de fonctionnement de cet appartement avec les charges précises annuellement. Donc ça, c'est une bonne mesure. Et les syndics sont en train de mettre en place depuis le 1er janvier un extranet qui va permettre à chaque copropriétaire ou à son futur acquéreur d'aller voir avec un code le fonctionnement avec le montant des charges. Je crois qu'il faut arrêter de mélanger l'aspect charge avec l'aspect que syndic. Encore une fois, les honoraires du syndic, ça n'est que 7% en général en moyenne du montant des charges.
Tonino Serafini, votre avis, vous qui êtes journaliste spécialisé dans l'immobilier pour Libération.
Non mais pendant longtemps, lorsqu'on a fait des plans de financement aux gens, on leur disait, ben voilà, vous gagnez 3000 euros, vous allez rembourser 1000 euros par mois et puis vous serez bien dans votre appartement. Et on oubliait de dire aux gens qu'ils allaient payer, par exemple, 200-250 euros de charges de copropriété, déjà pour commencer. Donc ça ne fait pas du tout le même niveau de charges à supporter pour se loger. Voilà. Et effectivement, heureusement, la loi est venue dire, voilà, lorsque il y a une vente, il faut immédiatement préciser aux acquéreurs le montant des charges, parce que ces charges-là s'additionnent à la traite que va devoir rembourser l'acquéreur.
Et c'est particulièrement le cas lorsqu'on est propriétaire d'une maison individuelle. Anne Lambert, c'est ce que vous racontez dans « Tous propriétaires, l'envers du décor pavillonnaire », tout simplement parce que des ménages modestes se retrouvent avec non seulement des remboursements d'emprunt, ça c'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre, mais aussi à des travaux qui peuvent être des travaux assez lourds, la toiture, avec une question de chauffage qui ne se pose pas de la même manière lorsqu'on est en maison individuelle et lorsqu'on est en appartement.
Oui, effectivement, en fait, ce qu'on observe, c'est que pour que le crédit soit accepté à la banque, les ménages achètent des maisons qui sont les plus simples possibles et ils prennent à leur charge après le fait de poser le carrelage, les chauffages, etc. Donc, ils accumulent un certain nombre de travaux pour plus tard, pour que le crédit passe, hein, et qui pèsent déjà très très lourd sur leur budget. Et puis, le deuxième problème, c'est que de la même manière qu'ils passent en logement collectif au logement individuel, ils doivent apprendre des nouvelles manières de consommer, en fait, nouveaux modes de chauffage, nouvelles dépenses énergétiques, l'isolement de la maison n'est pas le même, etc. Et donc, pour eux, c'est aussi toute une conversion mentale pour essayer d'anticiper les dépenses énergétiques, notamment, qui pèsent très très fort. La maison a chauffé la première année, elle est humide, on a des radiateurs électriques. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Donc, on a des ménages qui tâtonnent vraiment fortement et qui ont du mal à boucler les fins de mois pour ces raisons-là.
Les acheteurs sont-ils bien renseignés lorsqu'on décide, par exemple, de faire construire sa maison? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on ne vous dit pas? Bonjour Raphaël Mantou.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes allé sur le terrain de la construction de la maison individuelle, celle que l'on choisit sur catalogue, pour voir comment se déroulait la visite d'un acheteur potentiel, vous en l'occurrence.
Oui, c'est avec un micro caché que je suis entrée sur le site Domexpo. Et Domexpo est un village d'exposition de maisons témoins à Coignières, dans les Yvelines. Le site compte une dizaine de pavillons, les futurs propriétaires déambulent dans les allées, regardent la forme du toit, les briques ou la taille du garage, ils observent, hésitent entre le modèle lila ou le modèle aubépine. Et micro caché sous la manche, j'entre dans le village témoin, j'explique que je cherche un pavillon pour mes parents, je tape à la porte mais c'est ouvert, un commercial a installé son bureau dans une chambre, il me prie de monter, de faire comme chez moi.
Bonjour, c'est bien les maisons témoins là? Oui, j'ai à prendre des renseignements en fait pour mes parents qui veulent se construire une maison.
Au moment où ils parlaient, les parents, je me suis dit plein pied tout de suite dans ma petite tête.
Vous, vous êtes les maisons d'en France, c'est ça?
C'est ça.
Et ça, ça coûte combien par exemple?
1 300 euros le mètre carré.
1 300 euros le mètre carré, d'accord.
Voilà, quoi, c'est comme une voiture, hein. Vous avez un prix de base et après vous avez les options, c'est exactement la même chose.
Vous, vous vivez en maison? Ouais.
C'est parti, je vais voir toute ma vie. Moi j'ai vécu 18 ans en Portugal et effectivement je suis en maison individuelle. Et c'est plus sympa d'être en maison que d'être en appartement. Je suis revenu vivre en France, pas les moyens d'acheter une maison. Et je suis en appartement, en location. Mais je vais acheter une maison individuelle. Hein. Vous savez, il y a quelques mois, réveillé à 3h du matin parce qu'il s'était en train de se taper dessus et les meubles qui bougeaient de partout. En plus, je suis quand même dans des appartements où voilà, c'est 500 000 euros le F3. Il n'y a pas de respect du voisin, etc. Mais je vous assure que voilà quoi. Si vous avez des bons voisins, ça va. Mais si vous n'avez pas de bons voisins,
ouais.
C'est compliqué.
Ouais.
Voilà. Ça, c'est la maison qui est à peu près à 1 000 euros le mètre carré. Elle est faite en briques.
Merci beaucoup.
Logiquement, il n'y a pas de travaux à faire déjà. Ils rentrent dans du.
Dans du neuf, quoi.
C'est l'avantage. L'escalier au milieu, c'est pareil. Bon, maintenant, à cette époque-là, c'était tendance. On les pousse vers une cloison pour dégager tout l'espace. Alors ça, je vais vous donner le catalogue gamme classique. Alors, il faut savoir qu'il y a deux gammes chez Maison Barrio. Gamme classique, comme ça, avec des modèles qui sont figés, tout au moins pour l'extérieur. Hein. Sachant qu'à l'intérieur, on peut moduler quand même tout ce qu'on fait.
Oui, bon, toutes les...
On fait du tradi, du bon tradi costaud. Nous, on fait du moyen gamme, mais bien. Avec des belles prestations, parce que c'est comme ça.
Au revoir. C'est pour mes parents.
Quand ils sont à la retraite, ils sont merdes, toi, des fois. Donc, s'il est en appartement, il va s'embêter. Non, enfin, ça sera très bien. Quand on est en copro, on n'est pas chez soi, on est en copro.
Vous cherchez des maisons? Et c'est mieux d'être en maison qu'en appartement?
Les avantages, bah, c'est que vous êtes tout
seul. Vous n'avez pas de voisins. Vous...
Oui, vous avez un principal voulez, jardin. Mais bon, par contre, il y a du travail. Hein, c'est d'entretien. Hein.
Et en appartement
Vous n'êtes pas tout seul, c'est pas vous qui déterminez s'il faut chauffer ou pas chauffer, s'il faut
ah oui.
Pavillon, vous faites ce que vous voulez. Il faut être habitué à la maison, hein. Il y en a beaucoup qui passent à la retraite.
Faut le contraire.
Au contraire, c'est le, faut oui. Le contraire. On passe de, quand du on se met à la retraite, on passe de la pavillon, pavillon. De la maison à l'appartement, à l'appart. Hein.
Ouais.
Parce que c'est sûr parce qu'il y a moins d'entretien, moins de boulot de travail, dans un appartement que dans une maison. Hein. Et après, il y a le jardin. En principe, vous avez quand même toujours un petit jardin. Bah, il faut entretenir.
Et celle dans laquelle vous vivez, c'est quoi qui vous plaît?
Ex-maison de France, là, je vois que vous avez. C'est celle-là.
Maison ça Berval, France, France Confort.
France Confort. Et ouais, c'est bien, alors confort. Ça, c'est une bah, maison.
Ouais, ça fait 40 ans qu'on a construit, c'est bien. Hein.
Non, mais en tout cas, elle est solide, quoi.
Ah bah oui, on n'a jamais eu de problème. Hein.
Votre opinion devient publique en appelant au 01 45 24 7000.
Alors, quelle maison vous leur avez ramenée à vos parents, Raphaël Manteau?
Aubépine.
C'est bien. C'est une jolie maison Aubépine. C'est une fleur, malgré tout, qui peut comporter quelques épines, Anne Lambert. C'est ce que vous racontez dans votre livre, Tous propriétaires. Tout simplement parce qu'on dit qu'il n'y a pas de travaux dans une maison neuve. C'est à moitié vrai. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il peut y avoir des travaux qu'on se réserve et qui coûtent, du coup. Ce qui veut dire qu'on ne rentre pas dans une maison qui est complètement achevée. Et puis, on peut aussi se retrouver dans un lieu qui n'est finalement pas aussi magique que celui qu'on aurait pu rêver d'avoir.
Oui, je crois que ce qui est intéressant dans le reportage qu'on vient d'entendre, c'est d'abord en fait le travail des vendeurs de maisons, en fait, qui ont un travail de réassurance des familles qui viennent les voir. Parce qu'on a toujours l'idée que les ménages modestes se lancent et veulent accéder à tout prix, à acheter une maison. En fait, ils ont des réticences, ils ont peur aussi. Et on voit vraiment le travail des vendeurs qui est de donner une image d'identification à ces familles pour leur dire non, ça sera bien, moi aussi j'y vis, etc. Donc déjà, je crois qu'il faut mettre à distance la figure de propriétaire, enfin d'aspirant à la propriété, complètement inconscient et prêt à se surendetter. Et le deuxième point, effectivement, c'est la déception après qui arrive au moment de l'installation, puisqu'on a bien entendu les personnes parler de « on est chez soi, on n'a pas de voisin », le mythe d'être chez soi, dans sa maison, dans son enclos. Mais moi, sur le terrain, les ménages que je voyais, ils me parlaient de HLM à plat. L'idée que, en fait, c'est plus une promiscuité verticale, on n'entend pas ses voisins de haut en bas, on les voit toute la journée et on les entend d'un muret de jardin à l'autre. Pourquoi ? Bah parce qu'ils achètent des maisons petites sur des terrains petits, puisque évidemment c'est moins cher. Donc la promiscuité et les voisins, ils sont là toute la journée et on voit très bien ce qui se passe d'une maison à l'autre, ça crée des conflits comme en HLM en fait.
Avec une question à la clé, Jean-François Buet, vous qui dirigez la FNAIM, faut-il acheter dans un lotissement ? On a affaire à des maisons qui valent entre 80 000 et 100 000 euros lorsqu'on les fait construire. On a des parcelles qui sont de plus en plus petites, avec là aussi un souci qui est louable, a priori, de ne pas consommer de la terre agricole. Mais enfin, lorsqu'on devient propriétaire, est-il raisonnable d'acheter dans un lotissement selon vous ?
Mais je crois que c'est un choix de vie. Hein. Au même sens que tout à l'heure, on se posait la question de savoir est-ce qu'il faut être propriétaire ou être locataire. Je crois qu'il n'y a pas de règles. Il y a des choix de vie. Il y a en fonction de son budget, de ses contraintes, forcément, c'est le premier argument. Mais il y a aussi un choix de vie. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont du temps disponible, qui sont bricoleurs, qui aiment le jardinage et qui vont se sentir enfermés dans une cage dans un appartement. À l'inverse, certaines personnes qui sont hyperactives ou qui veulent faire beaucoup de sport ou qui veulent être dans la société n'ont pas envie de rester chez eux et puis de bricoler et d'être plutôt loin d'un centre-ville. Donc ce sont des vrais choix de vie. La question en fait qui est sous-jacente à tout ça, c'est est-ce qu'on sait vraiment bien ce que l'on veut ? Est-ce qu'on est vraiment cohérent avec soi-même ? Et est-ce qu'on sait se projeter ? Et en fait, quelqu'un qui achète une maison individuelle ou qui fait construire son pavillon, c'est pas forcément projeté. Il l'a fait parce que ses amis lui ont dit bah, « moi je suis propriétaire, j'ai acheté, tu devrais faire pareil. » Et bon, on va faire un peu de mimétisme. Mais en fait, on est tous différents. Il faut que chacun... On analyse bien ses besoins avant de faire son choix.
Pascal nous appelle de la Drôme. Bonjour Pascal.
Bonjour. Oui, mais écoutez, moi je suis maire d'une petite commune de la Drôme, mais vraiment dans l'arrière-pays, puisqu'on est en limite des Hautes-Alpes.
Et une petite commune qui s'appelle comment, Pascal ?
Bellegarde en Diois.
Donc dans le Diois.
Voilà. Et alors, moi, je suis confronté à un problème, c'est que nous, on a des jeunes qui viennent s'installer par rapport à des activités agricoles ou autres. Et le problème de ces jeunes, c'est qu'il y a des maisons qui sont à vendre dans le village. C'est souvent des maisons secondaires. Et les prix sont tellement élevés que les jeunes, aujourd'hui, ont l'impossibilité de s'installer dans ces maisons. Mmh. Ce qui pose effectivement un problème quant au renouvellement de génération. Et du coup, ben, on se retrouve avec des jeunes qui ont énormément de difficultés à s'installer. Et la situation n'est pas toujours facile du fait des prix très élevés des maisons qui sont à vendre.
Donnez-nous des exemples de prix pour les maisons qui sont à vendre.
On atteint des maisons qui sont au-dessus de 250 000 euros. Et c'est souvent, c'est donc pour des jeunes qui s'installent.
C'est évidemment inabordable. Et alors, en tant que maire, est-ce que vous avez des moyens d'agir, construire des logements sociaux ? Alors, si c'est une petite commune, c'est compliqué. La possibilité donc de développer des programmes de logements denses, de lotissements.
Alors le problème, c'est que effectivement, on n'est pas dans des régions où le logement dense est intéressant. Nous, les parcelles, le peu de parcelles qui sont à vendre à la construction, les permis de construire sont assez difficiles à obtenir du fait de la loi montagne.
La loi montagne qui protège le paysage, je le dis à la régie qui fronce les sourcils. Vous savez, c'est des Parisiens, ils n'ont jamais vu une montagne de leur vie.
Oui, donc effectivement, la loi montagne ne nous autorise pas à construire n'importe où. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de la commune, on réfléchit sur une carte communale, qui est un document simplifié d'urbanisme, pour arriver effectivement à définir un certain nombre de zones sur la commune où on pourrait effectivement permettre la construction. Il n'empêche que le problème qui se posera après, c'est le prix du terrain, parce que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a pratiquement aussi cher de terrain que de construction. Donc,
ça veut dire que la parcelle chez vous, elle commence à 80 000 euros aussi ?
Elle peut commencer à 80, 90 000 euros, oui. Il y a certains propriétaires qui sont très exigeants par rapport au prix. Donc, on n'arrange pas la facilité d'installation dans nos secteurs.
Merci Pascal pour ce témoignage. On l'entend, Tonino Serafini, il y a le problème de la parcelle, il y a le problème évidemment de la construction. Alors là-dessus, il y avait eu différents bricolages. On se souvient de la maison à 10 euros par jour. On avait essayé de torturer les sommes pour faire croire qu'on arrivait à des sommes faibles. C'était quasiment la maison à 1 euro par heure. Mais malheureusement, il y a 24 heures dans une journée. Et on se rend compte que ça n'est pas aisé finalement de résoudre cette quadrature. quadrature du cercle qui est le coût de la construction et le coût de la parcelle.
Mais oui, mais il n'y a pas de magie, quoi. On a dit tout à l'heure que les taux sont bas. Mais par exemple, un ménage qui rembourserait 1 000 euros par mois pendant 20 ans, ça veut dire que déjà, il doit gagner 3 000 euros pour faire ça. Qu'est-ce qu'il peut obtenir au taux actuel ? 180 000 euros de prêt. Avec 180 000 euros, qu'est-ce que vous achetez dans les grandes villes ? Pas grand-chose. Ou bien vous faites le choix, ça a été évoqué tout à l'heure, de l'éloignement.
Du périurbain.
Du périurbain. Et on voit bien que dans le périurbain, il y a vraiment des problèmes. Et
comment le voit-on, par exemple,
par exemple, lorsqu'il y a des élections, on voit que les gens votent protestataires. C'est des zones où le FN fait des scores incroyables. Ce qui montre bien que les gens expriment un malaise.
Qu'en pensez-vous, Anne Lambert, vous qui êtes sociologue, vous publiez « Tous propriétaires » sur cette désillusion, justement, du rêve pavillonnaire?
Alors, je ne suis pas spécialiste en sociologie électorale, mais bon, des collègues ont beaucoup travaillé là-dessus. En fait, ce qu'on voit effectivement, c'est que le fait de... c'est pas le fait d'habiter le périurbain qui fait voter FN, c'est les trajectoires sociales de ces ménages. Et quand on est en déclassement ou en difficulté professionnelle, qu'on a payé cher un pavillon, etc., qu'on a un sentiment, effectivement, de pas réussir, ça engage un vote plus protestataire. Mais les nouveaux accédants, je mets un petit bémol, parce que sont pour partie des ménages qui sont ancrés dans un vote à gauche de longue date, notamment les ménages qui sont issus de grandes cités HLM, qui sont des ménages issus de l'immigration, qui appartiennent aux classes populaires stables, hein, ouvriers, employés, s'installent dans ces zones et eux ne vont pas voter FN, même si ils bénéficient de mesures votées par la droite, même s'ils en ont conscience, etc. Ils restent ancrés dans un vote de classe, on pourrait dire, à gauche. Donc il ne faut pas mélanger tout. Enfin, ce n'est pas un vote périurbain, il y a des zones périurbaines et des votes différents.
Christian, alors Christian est très inquiet, je vais vous expliquer pourquoi, parce que son fils qui demeure en Californie souhaite revenir en France, jusque-là tout va bien, et il souhaite acheter une maison à Clamecy dans la Nièvre, Clamecy, la Venise de la Bourgogne, avec beaucoup d'eau, c'est une très jolie ville, Clamecy à côté de Corvol-l'Orgueilleux, il souhaite l'acheter, elle va lui être vendue pour 17 000 euros, elle est inhabitée, cela vaut-il la peine de se lancer dans un projet de ce type avec beaucoup de travaux, avec a priori donc une certaine incertitude sur la somme qu'il va falloir débourser pour transformer une ruine en une maison habitable. Quel est votre point de vue à ce sujet, Jean-François Buet, vous qui dirigez la FNAIM?
Alors écoutez, il se trouve que je suis bourguignon et je connais bien Clamecy. Donc oui, effectivement, il y a un très joli patrimoine à Clamecy, où ma marraine était prof de latin grec au passage. Donc je connais bien. 17 000 euros, c'est pas cher, mais il faut
projeter. D'un côté, les prix dans la Nièvre sont aussi très peu chers. Alors, et on voit que les prix dans la Nièvre ne cessent de diminuer, par exemple.
Mais c'est ça la grosse distorsion. Et je crois que pour revenir au débat précédent, c'est qu'il y a une grosse distorsion entre les grandes métropoles, les villes et puis la ruralité. Et c'est ça aussi aujourd'hui qui fait que nos concitoyens ne se reconnaissent pas toujours dans les décisions politiques qui sont prises. La Nièvre est un département extrêmement rural et on a beaucoup de départements ruraux en France qui sont perdus, qui sont loin de la République. Alors il y a de belles maisons, mais pour répondre plus précisément,
c'est quand même pas si loin de la République. C'est à 2 heures de train de Paris si on va à Nevers ou à Moulins. On a Auxerre qui est encore plus près. Alors là, c'est plus haut que la Nièvre, mais en fait, c'est un département rural qui n'est pas un département touristique et c'est ce qui explique peut-être que le prix des logements y est bas avec une tendance, je l'ai dit, à la baisse.
Mais c'est surtout le fait qu'on est loin des centres d'activité économique. Et donc loin du travail. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui pour un jeune couple primo-accédant, c'est de se loger près de son travail. C'est ce qui a été dit à plusieurs reprises. Et finalement, on s'aperçoit que ces départements-là deviennent des départements qui sont presque touristiques. C'est-à-dire que ça va être des zoos, quoi. C'est-à-dire, on y va parce qu'on va dans le Morvan acheter une petite maison pour y passer le week-end. Et ça peut être ça. Alors après, acheter 17 000 euros, je crois qu'il faut la réflexion précède l'action. Il faut quand même réfléchir. Il faut bien regarder tout ce qui va être à financer derrière.
Denis Séraphine.
Je crois que lorsqu'on achète un logement à rénover, systématiquement, il faut faire des deux préalablement. vraiment des devis sérieux de travaux. Parce que souvent, les gens, pour le peu qu'ils tombent sur un vendeur un peu qui a du bagou, très vite, ils sont dans quelque chose qui consiste à sous-estimer les travaux. Et donc, chacun a intérêt à faire une expertise préalable sérieuse pour savoir exactement ce qui l'attend en termes de travaux et de budget travaux.
Jacques nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Nous vous écoutons Jacques, nous écoutons voilà, votre question.
À mon âge 67 ans, je voudrais dire mon itinéraire, mon expérience à transmettre, c'est-à-dire généralisable, de quelqu'un qui a été peu locataire et puis propriétaire et qui regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt. Mmh. Donc, je vais prendre un exemple concret. Quand on est jeune, par exemple, qu'on a fait un CAP de cuisinier, donc on rentre dans une branche où on sait qu'il y a toujours du boulot. Bon, le conseil que je voudrais donner aux jeunes, c'est que dès qu'ils peuvent, dans une situation qui tient à peu près la route, mmh. ils achètent ce dont ils ont besoin. Par exemple, un célibataire, enfin, donc jeune, bon, ils achètent un petit truc, un studio, bon. Alors, ils n'ont pas d'argent, ils ont juste leur salaire, donc ils font un crédit, par exemple 15 ans. Bon, alors, l'idée, c'est qu'ils constituent leur propre capital. Aujourd'hui, le logement, c'est un tiers du budget de n'importe qui. Donc, mm-hmm. il faut gérer ça, comment on gère sa carrière, puis plus tard, comment on essaie de faire le mieux qu'on peut par rapport à ce que on fait, ce que deviennent ses enfants, etc. Voilà, c'est rentrer ça dans une logique de gestion de sa vie. Bon.
C'est ce qu'on appelle de l'épargne forcée, et effectivement, cela permet de se constituer un patrimoine avec quelque chose d'obligatoire, puisque vous êtes obligé de vous loger quoi qu'il en soit.
Voilà, exactement. C'est incontournable. De toute façon, il faut être quelque part. Alors, tant qu'à faire, plutôt que de gaspiller une partie de son petit salaire à des loyers qui partent en fumée, dont il ne reste rien, autant que ce soit des annuités d'emprunt, autant que ce soit le remboursement de quelque chose. Donc, le petit truc dont on a besoin. Ce qui n'est pas dans la culture française, c'est que c'est extrêmement simple d'acheter et de revendre. Surtout d'acheter, c'est le notaire qui fait tout. Les gens s'en font tout un monde.
C'est simple, mais il y a quand même les frais de notaire qui doivent rentrer en ligne de compte.
Oui, mais ce qu'on appelle les notaires, en fait, c'est plus compliqué. Mais ils ne sont pas énormes. Si vous achetez...
C'est vous qui le dites, Jacques. Ils sont de combien, Jean-François ?
8%.
Oui, c'est 8%, c'est-à-dire qu'on est l'un des pays d'Europe où les droits d'enregistrement sont les plus élevés.
Voilà, ce qui veut dire que finalement, il y a des freins à la revente, puisqu'on ne peut pas s'amuser à acheter, à revendre sans tenir compte de ses frais de notaire. Cette émission touche à son terme. Tonino Serafini, d'un mot de conclusion. Donc, on vous a senti sceptique pendant toute cette émission au sujet de ce projet de devenir propriétaire.
Non, mais il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir devenir propriétaire à tout prix. Il faut le devenir si on a les moyens de le devenir.
Anne Lambert, vous rappelez dans votre livre « Tous propriétaires, les désillusions ». Et donc là, vous expliquez que finalement, il faut bien veiller à cette décision. Ça n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère.
Oui, effectivement. Comme Tonino, le débat, ce n'est pas propriétaire ou locataire dans l'absolu. C'est dans quelles conditions ou à quel moment du cycle de vie. Donc effectivement, à chacun son arbitrage.
Jean-François Buet, un mot de conclusion pour la FNAIM.
Mais je crois qu'il ne faut pas acheter pour acheter. Effectivement, tout était dit. Il faut bien réfléchir et savoir que l'on s'engage sur 15 à 20 ans.
15 à 20 ans avec peut-être malgré tout quelque chose qu'il faut rappeler, les taux sont particulièrement bas et il y a à cet égard en quelque sorte un plancher puisqu'on ne peut pas imaginer que les taux diminuent.
Ah, c'est sûr, c'est pour ça que c'est vraisemblablement le moment pour celui qui veut le faire, de le faire pour capitaliser parce que les taux sont extrêmement bas.
Tonino Serafini,
il y a quand même des taux réels parce que même quand on est à 2,5%, l'inflation est presque à zéro, donc il y a quand même un coût de l'argent.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Anne Lambert, « Tous propriétaires, l'envers du décor pavillonnaire ». Nagui, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez Guillaume. Un grand loft avec tous vos camarades.
Écoutez, je vous laisse fantasmer.
La bande originale.
En tout cas, qui dit propriétaire dit travaux, et en ce moment, c'est pas le genre de truc dont on parle beaucoup ici. Donc non. On va éviter de faire des travaux.
L'immobilier va, voilà. Etc. Voilà.
Autour de notre table, la bande de camarades, et évidemment, il y a Leïla, Daniel Morin, Richard Lornac, Albert Algoun, on rejoint Florent Père aussi pour accueillir Jean-Charles de Castelbajac. Nous allons évoquer avec lui notamment le nouveau Larousse 2015, mais également plein de créations et de créativité qui sommeillent dans sa tête.
Qui pourra faire un peu de déco, par exemple, de tissu mural, ce genre de choses.
On va lui demander de taguer les murs, et puis d'un coup, ça va prendre de la valeur.
Eh ben, on va aller visiter votre loft à tout à l'heure, Nagui, juste après le flash.